Bonjour et bienvenue dans l'émission Les Voix Paysannes de l'ADR, Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural du Tarn-et-Garonne. Ce mois-ci, nous allons parler de transmission en famille, quand le modèle agricole conventionnel rencontre l'agroécologie. Nous partons donc à Montclar-de-Quercy, à la rencontre d'Antoine et de Marielle Costamagnol, qui ont bien voulu partager leur expérience d'installation et transmission. Antoine est paysan à la retraite, ancien éleveur de bovins en production laitière, et Marielle, sa fille, vient de reprendre la ferme pour en faire un lieu d'accueil et de sensibilisation à la biodiversité agricole. Avec eux, nous allons nous immerger dans le tournant des années 1960-70, où l'agriculture familiale traditionnelle a été obligée de se moderniser, afin d'entrer dans le système agricole conventionnel et compétitif que l'on connaît actuellement. Outre un changement de pratique et de technique agricole, c'est à un bouleversement de la vie à la ferme et familiale auquel on assiste. Travailler plus pour s'agrandir et couvrir ses dettes devient la préoccupation principale de ces paysans pris dans la course effrénée à la modernisation. Mais alors, jusqu'à quand on travaille? Jusqu'à solder ses dettes et après? Qu'est-ce que l'on transmet? Quel modèle et comment? Place au témoignage d'Antoine et de Marielle Costamagna qui ont bien voulu partager l'histoire de leur ferme. Bonjour Marielle et Antoine. Alors oui. On est aujourd'hui chez vous au domaine de Belvez. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu en quelques mots?
Antoine? Antoine Costamagna.
Oui.
Je suis né en 43, j'ai 80 ans et demi. Et j'avais quitté la ferme il y a déjà assez longtemps. Voilà. Et après, quoi vous dire?
Et donc, à côté de vous, c'est votre fille?
Oui, c'est ma fille. J'en ai une autre de fille, plus âgée, quoi. Mais elle est à...
Brundiquel.
À Brundiquel, oui. Avec son mari et ses gosses.
Alors moi je suis la petite, oui. La deuxième, et alors moi j'habite encore au domaine de la Malle à Puy-Gaillard, mais bon, depuis que mon père a fait un œdème pulmonaire l'année dernière avec mes enfants, comme j'avais fait un gîte ici pour accueillir des woofers, maintenant nous y sommes quasiment tout le temps, et voilà, et j'ai monté un projet ici. Et moi je suis née en 72.
Cette ferme, elle a commencé quand? C'était à votre arrivée, Antoine, ou elle était déjà existante?
C'est moi qui... Elle existait déjà. J'ai pris un fermage, et après j'en ai été propriétaire. En quelle année, je ne me rappelle plus.
En 67, quand vous êtes...
67, oui. Ouais.
Il l'avait acheté aux enchères, en fait.
Ouais.
Elle n'était plus en route, elle ne fonctionnait plus, la ferme. Puisqu'il y a eu une vente aux enchères. C'est vous qui avez tout recréé, après?
Ouais.
Il n'y avait que le bâtiment et...
Oui, avec le bâtiment, enfin, que j'ai modifié. Il n'était pas comme il est maintenant. Et oui, j'avais modifié. Et j'ai construit cette grosse table là aussi, pour mettre le bétail. Et voilà.
Vous étiez fils de paysan?
Oui, des paysans. J'ai fait un peu de apprentissage mécanique. Donc je savais faire un peu de tout.
Il réparait la voiture de Monsieur Aznavour, le papa de Charles Aznavour.
Oui. Avant de venir ici, quoi. J'étais dans les Alpes maritimes. Je fais 2 ans d'apprentissage mécanique. Et voilà. Comme ça, je savais faire, m'occuper de débrouiller tout seul pour faire suivant des problèmes sur les tracteurs.
C'est vrai que ça, c'était un sacré atout de savoir faire la mécanique.
Ah, ça, oui. Ouais. J'aimais ça, quoi. C'est pour ça.
Et vous avez quand même eu envie de revenir à cultiver la terre?
Oui. Oui, j'aimais ça, quoi. Alors, j'ai préféré revenir. Alors, j'étais dans les Alpes-Maritimes, on est venu ici avec mes parents. Alors, on avait acheté une ferme, hein. Et moi, après, j'ai acheté ici aussi. Avec ma femme. Hein. Voilà.
Et vous étiez en quelle production?
La production de lait. De lait et le renouvellement du bétail. J'élevais les veaux pour faire remplacer les vaches qui étaient plus vieilles. Voilà.
C'est vrai que pour préciser, c'était une toute petite ferme au départ. Donc du coup, il y avait le corps de ferme. Là où on a les chambres maintenant et salle de bain, tout ça, c'était les étables, en fait, à l'époque.
Il n'y avait que deux pièces.
Oui, il y avait deux pièces. Mon père, il a tout refait. Et en fait, moi, quand j'étais petite, il y avait une toute petite étable qui est là où on a la terrasse maintenant et la salle à manger.
Ouais.
Une étable faite avec des bâches, des bottes de paille.
Oui.
Et après, il y a eu un tournant, hein, papa, il y a eu un tournant quand ils ont fait la grosse étable. Où là, il a fallu rentrer dans le rendement. Et que tu as pris plein de terre en fermage. Et là, les gros.
Quand j'avais fait l'étable, le vieux bâtiment était resté ici.
Oui, il y avait le hangar à tabac. Il a fait du tabac aussi.
Du tabac, oui. Et après, j'ai arrêté de faire le fourrage, le tabac. Alors, comme on avait beaucoup de bétail ici, on mettait les bottes de foin, tout ça. Et après, on les rentrait pour donner au bétail. Voilà.
Et tu as fait l'étable en 86 avec tonton. Je crois que c'est 86. Et là, du coup, c'est rentré dans
frère,
le...
Mon frère m'avait aidé à le faire. Faire la toiture, tout ça.
Oui. C'est vrai qu'à l'époque, les paysans, ils savaient tout. Enfin, bon, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pareil. Et vraiment, ils savaient tout faire, hein. Et donc, ouais. Du coup, il y a eu un... peut-être qu'il faut le préciser, il y a eu un virage, une autre direction qui a été prise quand il y a eu cette grosse étable, parce que du coup, c'était des gros crédits. Et après, tu as dû prendre en fermage plein de terre autour de Montclar.
Oui, j'avais un peu de terre en fermage, à droite et à gauche, à Selouin. Une cinquantaine d'hectares, j'avais pris en fermage. Et voilà.
Et acheté les gros tracteurs, enfin gros, de l'époque. Qui sont aujourd'hui toujours dans l'étable, mais c'est des petits tracteurs maintenant.
Ah, il y en a un gros ?
Oui, il y en a un gros que tout le monde veut et qu'on a gardé.
Ouais. Trois tracteurs. Et comme j'étais un peu mécanicien, je faisais des fois des bricoles dessus sans aller chez un mécanicien. Quoi. Mm-hmm. Ou faire venir un mécanicien.
Et après, tu t'es mis à faire tournesol, sorgho, maïs. Il a mis tout le système pour l'irrigation, qui a coûté aussi une fortune. Et il a fallu rentrer dans la production. Ma mère faisait des cornichons l'été. Moi, j'ai payé ma mobilette en ramassant les cornichons à 14 ans. Et là, ça avait pris un autre rythme, la ferme.
Ah oui, bien sûr.
Et bon, c'était obligé pour survivre, parce que sinon... Hein, c'est pour ça que vous l'avez fait.
Quoi ?
Il fallait s'agrandir pour pouvoir...
Continuer.
Continuer,
ça, bien sûr.
À l'époque, c'était pas grande ferme, mais il fallait quand même s'agrandir. Ouais.
J'avais des kilomètres à faire avec les tracteurs pour faire le fourrage, tout ça. Et le ramener ici, dans l'étable. Oh, j'avais du boulot, oui.
Ouais. En tout cas, pour moi, en tant qu'enfant, ça a changé complètement de rythme à ce moment-là. Mm-hmm. Avant, on avait encore, il me semble, le rythme familial. Et après, bon, nous, on était déjà plus grandes quand même, on allait au collège. Mais bon, c'est rentré dans le rythme où je ne voyais plus mes parents. Quasiment.
Eh ouais.
Mais c'est pas, c'était pas votre faute. C'était le rythme qui a fait que tu étais obligé de commencer à 6h du matin et l'été tu finissais à 10h, voire 10h30. Ma mère aussi qui rentrait la pauvre en mobilette parce qu'elle n'a pas le permis. Elle faisait des cornichons après Montclar. Et voilà, c'était le rythme d'accord avec beaucoup de paysans malheureusement. Avant, il y avait un rythme. Enfin, pour moi, là, je parle de mon témoignage. Je ne sais pas, peut-être toi, tu peux le témoigner, ça, papa, si tu ressens la même chose que moi. Il y avait un rythme où vous travailliez beaucoup, mais c'était quand même à échelle humaine. Et du coup, moi, en tant qu'enfant, je m'y retrouvais parce qu'on était quand même ensemble. On faisait des petites bottes de paille, je conduisais le tracteur. Et après, quand c'est passé à l'autre échelle, plus gros tracteur, grosse botte de paille... Nous avons perdu ce truc d'être ensemble et de faire les choses ensemble.
De paille et de foin, quoi.
Et oui, mais du coup, tu faisais les choses, toi, il fallait faire vite, tu partais loin. Maman qui faisait les cornichons, on ne la voyait pas. C'était moi qui faisais à manger ou ma sœur. Donc là, c'est pour ça que j'en parle, parce que pour moi, en tant qu'enfant, il y a eu une transition qui a été peu douloureuse.
Je venais traire les vaches, et après je mangeais, et puis je repartais dans... faire les bottes de foin la nuit. jusqu'à 1h du matin, souvent. Hein.
Ouais. Et le maïs aussi, la nuit que tu allais irriguer.
Ouais, faire l'irrigation aussi, la nuit. Oh oui, ça, ça, j'en avais fait des choses.
Vous avez du mérite parce que vous vous êtes super accroché pour que ça perdure, quoi. Et puis pour finir de payer les crédits.
Ouais, ça aussi, j'avais les crédits, hein, il fallait les rembourser. Il fallait pas chômer. Ça, ouais.
Et pendant votre temps en activité, vous avez quand même réussi à prendre des temps de pause. Les vacances, est-ce que ça existe?
Oh non. Pas de vacances. Hein. Il n'y avait pas de vacances. Hein.
Première fois qu'ils sont partis en vacances, à part leur voyage de noces, ça a été 2 ans après la retraite, je crois. Il est retourné voir sa famille sur la Côte d'Azur. Enfin, même pas sur la Côte d'Azur, dans le Var.
Ouais.
Vous êtes parti avec maman, 40 ans après la première fois où vous étiez parti. Donc, aucune vacances.
Non, non.
Même les week-ends, il y avait le mariage. Les vaches laitières, c'est vraiment contraignant. Parce que même quand ils ont allé à des mariages, ils devaient revenir traire. Et puis, ils n'avaient pas les moyens de prendre de remplaçants à l'époque. Hein.
Oh non. Et puis, même les remplaçants, ils ne savaient pas trop le faire. Oui. Une fois, j'avais pris un, mais ils ne savaient pas se faire.
Mais avec les bêtes, il y a une histoire de vie ou de mort aussi, parce que si les choses ne sont pas bien faites, je pense que ça mettait en plus un stress, en plus du fait que vous n'avez pas l'argent pour payer quelqu'un, quoi.
Ah ben ça, non, bien sûr. Essayer de faire des économies.
Du coup, est-ce que le temps de la retraite, on l'attend, je ne sais pas si on peut dire avec impatience, quand on travaille comme ça, en continu ou...
Non, je n'avais pas de patience, mais... Il fallait que ça arrive, et puis voilà. Hein. Parmi. Et oui.
Tout de suite, une coupure musicale choisie par Marielle. Nous allons écouter Mentissa et Bam. Et l'on se retrouve juste après pour la suite de l'émission Les Voix Paysannes, transmettre en famille quand l'agriculture conventionnelle rencontre l'agroécologie.
Gare du Nord en novembre, les cheveux en pagaille. Comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. Tout à coup me voilà, les jambes fébriles. Qu'elle est grande pour moi, cette scène imposante où tout devient fragile. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat, et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas l'Amérique. Envoler mon enfance, mais jamais rien n'efface. Les rêves ou la violence, ah oui, ça vous glace, mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi des jouets et que vienne la pluie. On ne montrera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis. Bas, et bam, sur la musique. poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux cette guerre.
De retour dans l'émission Les Voix Paysannes, transmettre en famille quand l'agriculture conventionnelle rencontre l'agroécologie, et nous continuons avec le témoignage d'Antoine et de Marielle Costamagna sur leur expérience de transmission et d'installation.
Et comment ça s'est passé pour vous ce moment où vous vous êtes dit là il faut peut-être arrêter ou qu'est-ce que je vais faire de la ferme ?
Avec ma femme, on a été aller dans le Var, où c'est que j'étais avant, voir les anciennes copines et copains que j'ai retrouvés. Mm-hmm. Oui, et ça m'a fait plaisir.
Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes quand même toujours sur la ferme du coup de Belvez avec votre fille. Est-ce qu'il y a eu des changements vu que maintenant il n'y a plus de vaches?
Oui. Changement, puis j'ai des voisins agriculteurs qui viennent faire le fourrage, tout ça, ils le prennent et ils me le remboursent. La vie change.
Et justement, les changements au niveau de la ferme, comment vous les avez ressentis?
C'était... Ça allait. Ça allait toujours pour moi.
Optimiste, mon papa. Moi, en tant qu'enfant, je peux dire, et c'est pour ça que je suis revenue y faire quelque chose ici, c'est que le jour où les vaches sont parties, ça t'a fait quelque chose, papa. Parce que moi en tant, donc, avec mon regard d'enfant, j'avais l'impression que mes parents, ils sacrifiaient leur vie, que c'était très dur, parce que voilà, pas de vacances, pas d'argent. Enfin, l'argent juste pour rembourser les crédits, ce qu'ils ont gagné, mais ça servait juste à rembourser. Et ça suffisait même pas pour rembourser les crédits, d'où le besoin de retravailler toujours encore plus, de trouver des revenus complémentaires. Ma mère aussi, elle faisait un petit peu des ménages chez le voisin, en plus des cornichons. Et finalement, quand ils ont arrêté, du coup, et que les vaches sont parties, moi j'étais là, j'habitais à Toulouse à l'époque, et j'étais là ce jour-là. Et je me souviens, papa, t'avoir vu pleurer. Et quand on a mis les vaches... Ah, je vais pleurer si je... Quand on a mis les vaches dans le camion. Et puis là, ce jour-là, j'ai pris conscience. Mais je me suis dit, finalement, mes parents, ils étaient passionnés par ce qu'ils ont fait. C'était une vie dure. Hein, mais tu aimais. Oui. D'ailleurs, tu le dis, t'as pas de regrets. Et tu voulais revenir paysan. Tu voulais pas rester mécanicien. Et là, je me suis dit, waouh. Et j'ai pris conscience de la valeur que ça avait, en fait. Et je connais plein de copains aujourd'hui paysans qui s'acharnent et qui continuent. Je parle d'acharnement parce que, dans un sens, c'est de l'acharnement. Quoi, parce qu'il faut tenir le coup. Mais en fait, il y a une passion de la terre, des animaux que vous m'avez transmis. Hein. C'est pour ça que je parle d'un virage en 86. C'est parce qu'avant, pour moi, c'était quand même... Même si c'était dur, c'était quand même une vie liée à la terre, liée aux animaux... lié à la famille, parce que c'était quand même du coup une toute petite ferme familiale. Et après, quand il y a eu ce virage, moi je m'en suis éloignée parce que je me reconnaissais pas du tout dans ce truc là, puis aussi parce que bon, j'étais ado et j'avais besoin de faire autre chose, hein. Mais ce jour là il y a vraiment eu pour moi de nouveau une connexion forte à la ferme, en me disant waouh, en fait, parce que ma mère aussi elle aimait ça quand même, hein. Vous travailliez comme des dingues, mais vous aimiez ça, c'était leur raison de vivre, en fait, quelque part, entre guillemets. Et ça m'a fait prendre conscience que ça avait de la valeur et que, heureusement qu'ils avaient gardé. Parce qu'à une époque, j'avais un oncle qui était venu, il avait dit « Oh, on pourrait le vendre aux Anglais ». Parce que, enfin, des fois, on se disait « Ils vont mettre la clé sous la porte hein. ». C'était vraiment les fins de mois. Même quand ils ont pris la retraite, ils avaient encore des crédits. Heureusement, il y a des terrains à bâtir. Ils ont pu vendre des terrains. Sinon, je sais pas comment ils auraient bouclé le budget. Mais donc voilà, moi, à ce moment-là, j'ai pris conscience de ça. Mais pour moi, il n'était pas question encore à ce moment-là de reprendre, parce que c'était pas reprenable, cette ferme, au niveau financier, au niveau humain. Quand je parle humain, c'est pas que mes parents sont pas humains, mais c'était qu'il n'y avait pas de vie possible, entre guillemets, de vie privée, de vie familiale. Mais il y a quand même eu le besoin, du coup, quand j'ai vu tout ça et que j'ai pris conscience de tout ça et que ça m'a énormément touchée, je me suis dit, mais... Bon, parce que j'avais un frère, il est décédé, Pascal, hein, petit. Ah ouais. Donc du coup, il n'y avait pas de repreneur. Ma sœur, elle était avec son mari, ils avaient leur propre projet puisqu'ils faisaient du fromage de chèvre. Et moi, j'étais pas du tout partie pour être dans le monde paysan puisque je faisais du théâtre à l'époque et je faisais mes études. Mais il y a quand même eu ce truc de bah, qu'est-ce qu'elle devient cette ferme. Et à cette époque-là, il y avait plein de gens, bien sûr, qui voulaient les terres, hein. Les paysans d'à côté. Et je travaillais dans les semences de maïs parce que je travaillais quand même tous les étés dans les campagnes. Ça, pour moi, c'était resté. Hein. Je pouvais pas être en ville l'été. Et j'ai discuté à ce moment-là avec les gens avec qui je travaillais et il y en a un qui m'avait dit, mais les terres, en attendant de savoir qu'est-ce qui s'y passe réellement, tu peux devenir cotisant solidaire et travailler les terres avec ton père, quoi, en fait. Parce que bon, vous le savez, les paysans, ça s'arrête officiellement, mais officieusement, ça continue toujours tant que ça peut. Et voilà, et du coup, il est arrivé cette solution-là. En 2005, je suis devenue cotisante solidaire et j'ai pris les terres en fermage. Ouais. Du coup, on a pu faire avec mon père. Bon, il faisait une partie, moi je faisais une partie. On a réussi quand même à continuer. Donc de 2005 jusqu'en 2014,
ouais.
Où j'étais en fermage. Et il y avait quand même les productions céréalières. Et ensuite, il y a eu la naissance de mes enfants. Enfin, de ma fille d'abord et puis après mon fils en 2015. Et là, d'ailleurs, la première année où j'avais Amaria, je l'avais dans le porte-bébé. On était tous les deux sur le tracteur. Des fois, c'était toi qui portais Amaria dans le porte-bébé. Elle avait trois mois l'été. Elle était née le 31 mars. Des fois, je la portais dans le porte-bébé et j'étais sur le côté. Et puis, c'était mon père qui conduisait. Des fois, c'était moi. Donc, en fait, c'était assez... Ouais, c'était chouette, en fait. Ah, là, moi, je trouve qu'on a vécu des grands moments. Même les... Bon, ma fille, elle a des demi-frères et demi-sœurs. Ils sont venus. Les dernières moissons qu'on a faites, on était avec la moissonneuse. Il y avait ma fille dans les bras de son frère et de sa sœur. Les plus grands, et on était tous là-haut, on faisait des photos. Enfin, c'était... Du coup, on avait retrouvé le truc familial qui était assez chouette.
Ouais.
Et puis après, la réalité a pris le dessus quand j'ai eu mon fils, parce qu'en plus, je me suis séparée. C'était que. Enfin, là, moi, j'ai regardé les comptes, contrairement à avant. Je me suis dit, je vais travailler à perte. Et j'ai deux enfants, je veux les éduquer, parce que moi, du coup, j'avais ce truc très à cœur d'avoir du temps avec mes enfants. Et à ce moment-là, j'ai décidé, puis mon père, là, bon, il commençait à être fatigué quand même. Hein. Il y avait encore, ils ont gardé 3 hectares, vous aviez quand même gardé les terres. Tu faisais encore il y avait il y avait les vaches un petit peu, tu avais quand même gardé 3 vaches, à un moment donné, les génisses.
Ouais.
Et du coup, ils continuaient à faire du fourrage, de la luzerne, des trucs comme ça.
Ouais.
Donc voilà, c'est devenu là vraiment le petit truc de retraité. Hein. Et moi, j'ai mis les terres là-haut, je les ai gardées en fermage, mais je les ai mises en jachère provisoirement, parce que je voulais mettre en bio. Et une partie, qui c'est toujours le cas d'ailleurs, qui est faite en fourrage par un voisin. Et il fait des grosses bottes. Et puis après, il y a eu les chèvres. Donc du coup, voilà, on partageait les bottes. On fait des arrangements. Hein. Il donne une partie en bottes. Des fois, il payait avant, mais bon, voilà, on s'arrange.
Ouais.
Sinon, il aide. Il fait des petites bottes quand on avait besoin des petites bottes. Donc ça a continué comme ça. Et le verger. Ah oui, t'as monté le verger aussi. Bon, pas en financier, là. Du coup, oui, c'est devenu la ferme. C'était quasi au niveau nourriture. Oui, ah oui, il y avait les chevreaux, les chèvres. Les poulets, les lapins, enfin bon, le truc à l'ancien. En fait, on est revenu à ce moment-là.
Oui, il y avait de tout. Des canards, des...
Ouais, les oies, les dindes, les dindons. Il y a eu un peu de tout. Et à ce moment-là, du coup, c'est redevenu un peu ce que j'avais connu quand j'étais petite. C'est pour ça que je dis que c'est revenu familial. En plus, nous, on habitait quand même dans le Vaucluse au début, quand ma fille était toute petite, jusqu'à ses 1 an et demi. Et on revenait pour les vacances. Et c'est là où on a fait les moissons avec toute la famille. Au niveau de l'alimentation, on mangeait que les trucs de la ferme, quasiment, quoi. Et parce que en plus, mon papa, à la retraite, il avait mis en place le verger. Bon, maintenant, moi, j'ai transformé en jardin verger. Et ouais, il y a eu cette... Oui, tu avais quand même beaucoup de travail encore avec la vigne, le verger.
Ouais, j'avais beaucoup de vignes à l'époque.
Non, ça, c'était avant. Non, mais quand tu as pris la retraite, il n'y avait plus tout. Oui, il avait 3 hectares de vigne, il faisait du vin aussi. Avant qu'il ait l'étable, justement. Mm-hmm. On faisait les vendanges, j'avais les voisins.
Et oui.
Et quand tu as eu l'étable, tu n'as plus pu. Et donc la vigne, elle a été arrachée.
Et oui. Oui, après, on l'a arrachée, la vigne. T'es obligé.
Ben oui, il n'y avait plus le temps de l'entretenir. Donc, voilà, c'est là la transition. C'est passé, mais bon, tu as quand même continué à faire plein de choses jusqu'à il n'y a pas longtemps. En fait, il a été opéré d'un deuxième genou juste avant le Covid, arthrose. Et là, ça a été un gros Covid derrière. Pas lui, mais le monde entier. Heureusement, lui, il ne l'a pas eu. Et du coup, voilà, il y a eu... après, ça a été un peu les arrêts de toutes les activités pour toi.
Moi, ouais, bien sûr.
Bon, ben, tu fais encore un petit peu, tu attaches la vigne ou tu tailles la vigne?
Ouais, encore la vigne, un peu de vigne là, mais il n'y en a pas beaucoup. Les arbres fruitiers, c'est pareil. Je les taille avant, maintenant, je ne m'en occupe plus. Je ne fais plus rien.
Et Et c'est pour ça que, bon, du coup, voilà, moi, pour faire revivre la ferme, parce que, bon, quand mon père a vraiment. Oui, décider et puis lâcher, quoi. C'était quand même en 2019, ça a commencé avant, parce que ma mère a été hospitalisée pendant 3 mois. Elle n'était pas bien. Il y a eu déjà un moment où tu as commencé à te mettre sur le canapé. Et j'ai dit à mon père, à ce moment-là, je me souviens, l'été, là, quand ma mère était partie à l'hôpital, c'est quoi ton rêve maintenant? Parce que j'ai quand même toujours essayé de rester en lien avec qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse. Autant quand il a pris la retraite, il m'a dit qu'il avait envie de continuer. Donc, c'est comme ça qu'on avait trouvé une façon. Bon, mais moi, je suis en fermage, mais du coup, ben, comme c'est mon papa, on travaille ensemble quand même. Et là, en 2019, tu m'as dit, c'est de ne plus rien faire. Et là, je l'ai regardé. J'ai dit, quoi, toi, plus rien faire? J'ai dit, c'est vrai. Tu m'as dit, oui, là, maintenant, j'ai plus envie de rien faire. Plus rien. Je m'en souviens, ça m'a fait... Et c'est là que je me suis dit, bon, ben, c'est à moi de prendre la relève pour de bon, quoi. Faire des choses sur les terres, j'avais bien calculé. Puis j'ai demandé à des copains qui faisaient du bio. Ils m'ont dit, mais tu ne vas pas faire du bio sur des terres en jachère où il y a eu des céréales. Enfin, c'est impossible. Même eux, ils ne voulaient même pas le faire, même en fermage et tout ça. Ouais. Donc, j'ai réalisé que mon rêve de faire du bio là-haut, c'était un peu... Enfin, en tout cas, pas en céréales. Et j'ai cherché un moyen. J'étais déjà dans l'esprit de la permaculture parce que dans la Drôme, j'en faisais. J'ai cherché un moyen de... soit les terres, j'y fais quelque chose, soit je mets quelqu'un vraiment au-dessus, quoi. On les met en fermage. Et au moment où je me disais, bah, allez, c'est bon, on le laisse en fermage à celui qui nous coupe le foin, c'est là où j'ai réalisé ce qui se passait au niveau du climat. Je le savais déjà, la biodiversité, tout ça. Mais j'avais arrêté de trop m'informer quand j'ai eu mes enfants pour ne pas être dans l'angoisse. Et en 2018, j'ai réouvert les yeux sur la réalité du monde. Et là, je me suis dit, bon... qu'est-ce que je fais? Je déprime, je dors plus parce que je me dis que ça y est, c'est mort, tout est foutu et la nature, voilà. Et nous avec, ça craint grave. Ou bien, j'ai fait ce que je fais toujours. Il y a un défi et comment le relever, quoi. Et c'est là que je me suis dit, mais ces terres que finalement j'ai gardées, plus ou moins pour la transmission, en attendant qu'il y ait quelque chose et tout, je me suis dit, c'est le moment d'y faire quelque chose dessus. Et j'ai monté l'association Biodiversité Réenchantée avec Leslie et puis une voisine. Et j'ai commencé à monter des ateliers de permaculture, à transformer les jardins. Parce que mon père m'a dit qu'il ne voulait plus rien faire. Et c'est vrai que je voyais qu'il n'avait plus du tout envie d'aller ni dans le verger ni dans le jardin. Et qu'il commençait à avoir envie de s'allonger. Et c'était normal. Il était vraiment fatigué. Et il avait le droit d'enfin se reposer. oui, parce que tu avais quand même 77 ans ou 76 quand tu m'as dit ça.
Ah, oui.
Et tu étais vraiment fatigué. Parce qu'il avait aussi rénové toute la maison quand il a pris la retraite. Ça, on ne l'a pas dit, mais la ferme, ce n'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Et voilà, donc Biodiversité Réenchantée est arrivée avec le désir de faire de la permaculture, donc de prendre le temps de régénérer agroécologie aussi. coup, j'avais regardé Maréchal Jean Saul Vivant, François Mullet, j'étais à la fac avec lui, il était à la fac, j'avais monté une association avec lui à l'époque et tout ça. Donc du coup, j'ai vu ça, tous les super projets qui se faisaient. Je suis allée grâce au Pays Midi Quercy voir un truc sur le climat, il y avait eu un truc entre l'artistique et la biodiversité. Du coup, ça m'a appelée, j'y suis allée, j'ai rencontré Sivam Semaï, Hélène Bourri à l'époque. Et là, boum boum, des petites étincelles sont arrivées. Et je me suis dit, je voulais pas tout de suite monter ma propre asso, je voulais faire des choses avec Sivam Semaï. Mais bon, voilà, vu que le temps passait et qu'avec Sivam Semaï, moi j'étais administratrice, mais il n'y avait pas de choses qui pouvaient se passer en lien avec la ferme, c'est là que j'ai décidé de monter ma propre association. Et de faire des choses concrètement sur la ferme. Et donc, jardin, verger. Mon père avait déjà mis des arbres. Moi, j'ai tout transformé. J'ai pris des woofers. On a régénéré la terre avec les systèmes de permaculture que vous connaissez sûrement. Alors, pour mes parents, c'est un peu bizarre parce que j'ai laissé pousser les ronces, j'ai laissé l'herbe. On ramasse les plantes sauvages. Donc, c'est vrai que j'ai senti que pour mes parents, c'était pas facile. Je laisse l'herbe pousser aussi, notamment pour les fraises, pour pas qu'elles crament l'été. Donc, c'est toute une autre façon de faire le jardin qu'eux. Mais bon, finalement, t'es venu quand même au début. Puis, quand on fait les ateliers de permaculture, je fais des chasses au trésor, j'essaye de le mettre dans l'histoire, mon papa. Ma maman, elle a pas trop envie de témoigner, mais voilà. Et donc, du coup, après, on a répondu à un gros appel à projet qui s'appelle « Ma solution pour le climat ». Avec la région Occitanie, on a été élu, on a un gros budget. Alors, 145 000 euros, mais il y a 115 000 euros pour le matériel, pour mettre en place les vergers, le bâtiment dans lequel nous sommes maintenant, qui a remplacé le hangar à tabac qui était en train de s'écrouler et qu'il était vraiment temps de faire tomber. Quand on l'a fait tomber, il était en train de s'écrouler sur la maison. Les poteaux, ils étaient comme ça. On se demandait comment ça tenait. Mon père avait mis des poteaux dessous. Donc voilà, du coup, c'est là qu'il y a eu vraiment la transformation et que l'association a pris sa place. Et j'ai fait faire un chemin dans les bois aussi pour monter, pour aller faire après aux abords du bois, derrière, là où c'est qu'il y a les terres à régénérer. J'ai laissé pousser plein d'arbres et on va y faire le verger collectif. Voilà, grosso modo.
Ouais.
Et je parle du Pays Midi Quercy que je remercie parce qu'ils avaient pris l'artistique et c'est ça qui m'avait fait waouh. Et je suis allée voir du coup les spectacles et c'est là que j'ai rencontré après Sivam Semaï, le Pays Midi Quercy. Parce que du coup l'artistique m'avait appelée. Et moi ici, la transition que je fais, c'est mettre en place la permaculture et aussi l'artistique. Parce que je faisais quand même du théâtre quand je suis revenue ici. J'en refais, ça y est, je redonne des cours de théâtre. Je suis même en train de faire une création avec des copines. Et du coup, voilà, moi, mon désir aujourd'hui, c'est de permettre à mes parents de rester ici. Donc, du coup, c'est pour ça que maintenant, on y est de plus en plus avec mes enfants. J'ai fait le gîte, c'est moi qui l'ai financé. J'ai fait un gîte en bois pour accueillir les woofers. Il est sur le côté de la ferme. Et puis, voilà, j'ai essayé de trouver les moyens de transformer pour pouvoir accueillir du public, pour pouvoir faire ici, mettre les plans et tout ça, parce qu'on n'a pas de... On n'avait pas de lieu de stockage qui soit fermé. Là, l'étable, elle est trop froide l'hiver. Ouais, voilà. Voilà, donc moi, je suis dans le système, on fait des échanges. Ça reste avec l'agriculteur, on fait des échanges. Là, cet été, on a eu des tonnes de fruits, donc les gens viennent ramasser. J'ai échangé avec des gens des tomates contre des prunes. Et en fait, moi, je me dis, c'est ce que je disais quand j'ai commencé à faire les premières initiations en permaculture, j'ai le désir de remettre en place ce qu'il y avait quand j'étais pitounette. C'est ça que j'ai parlé des vendanges, même, je sais pas, on allait faire le dépicage, comment ça s'appelait, les moissons, là, chez tonton, enfin, tous les trucs que faisait. Ouais. En fait, avant, moi, ce que j'aimais sur la ferme, c'est qu'il y avait les voisins qui venaient, c'était l'entraide tout le temps. Quand vous faisiez les... Oh, je ne me rappelle plus les noms. Je perds aussi la mémoire, moi. Enfin, il y avait souvent des activités...
Les moissons.
Les
moissons, ouais.
Ouais, tout ça. Et du coup, c'était quand même des grands rassemblements où on mettait la grande table. C'était la remise à l'époque. Maintenant, c'est la salle à manger. Et... Ou dehors même, les vendanges et tout ça. Et du coup, il y avait cette entraide entre les paysans. Et moi, quand j'ai monté, du coup, l'association et que j'ai mis la permaculture en place... Quand maman était à l'hôpital, elle était où tu m'as dit que tu voulais tout arrêter. Je me disais, mais en fait, ce que j'ai le désir de remettre en place, c'est ce qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire, on fait de l'entraide, on fait des échanges. Et ça, moi, ça m'anime. Plus en plus, le désir de remettre de l'artistique et d'essayer de faire une ferme avec une transition. Voilà. Pour l'instant, où les terres, elles sont encore en jachère, la plupart. Après, il y a les jardins vergers donc, qui sont mis en place. Il y a le foin aussi. Et je me dis que pour l'instant, c'est l'association qui a pris le dessus. Et j'ai envie, à terme, de quand même faire des choses là-haut. Donc, j'espère que le côté agricultrice qui produit des choses sur les terres là-haut va pouvoir se faire avec l'agroécologie. Mais là, jusqu'en 2025, on est engagé avec la région Occitanie pour le plan climat. On a aussi, avec le pays Midi-Quercy, on est engagé dans le PAT. On a répondu à l'appel à projet de la mesure 13 du plan de relance, qui se termine fin décembre. D'ailleurs, on fait des portes ouvertes le 8 octobre. On vous invite à venir le dimanche à 14h30, dans lequel on va expliquer tout ça et surtout promouvoir le PAT, parce que le plan donc, d'action territoriale pour l'alimentation. On fait aussi une journée le 22 octobre avec Sivam Semaï à Nègrepelisse. Viendez. Et voilà, donc tout ça, moi, ça me donne des engagements. Il y a des choses à mettre en place. Et quand ça sera terminé, donc le plan climat, c'est 2025. Après, ça continuera, le jardin et tout ça, collectif et le verger collectif. Mais je serai plus autant... j'espère que je pourrai lâcher un petit peu plus, parce que même si c'est une association, c'est moi qui tiens beaucoup de choses, que je pourrais... qui met en place les choses, puisque c'est sur notre ferme, je pourrais remettre en place des cultures là-haut et faire vivre les jardins vergers et une pépinière et tout ça. Bon, donc le 8 octobre, si vous voulez, venez voir, 14h30, je vous expliquerai mieux l'association, la transmission. Et mon papa, il fait partie de la chasse au trésor, donc il y aura mon papa à découvrir. Parce qu'on fait une chasse au trésor pour les portes ouvertes.
Super. Eh bien, merci beaucoup, Marielle et Antoine, pour ce témoignage. Vous, Antoine, qu'est-ce que ça vous fait, du coup, de voir maintenant cette ferme rempli, on va dire, de vie, de nouveaux projets?
Bon, ça me fait rien, quoi. J'y pense par vie, de voir ce qu'ils font, mais après, maintenant, c'est plus moi qui m'en occupe, je m'en fous. Voilà.
Vous profitez des activités, des animations.
Oui, c'est ça, par vie.
Et
ouais.
Eh bien, merci beaucoup.
De rien, ça me plaît.
Merci à Antoine et Marielle Costamagna d'avoir partagé ce récit de vie à la ferme avec nous. Prochainement, ne manquez pas la formation tutorat de l'ADR 82 pour les paysans et les paysannes installées qui souhaitent transmettre leur savoir. Plus d'informations sur nos événements et formations sur notre site internet. Vous pouvez réécouter l'émission Les Voix Paysannes le dimanche à 20h ou en podcast sur le site de CFM Radio de l'ADR, ADEAR du Tarn-et-Garonne. Je vous dis au mois prochain, le premier mercredi du mois à 19h sur l'antenne de CFM.